France Culture.
Je vous prie de m'excuser, je suis en retard. J'ai tourné tranquillement autour du pâté de maison. T'as des informations pour nous ?
En fait, non.
Ah non ?
La porte est ouverte.
Ah ! J'entends sa voix.
Hélène, c'est Marie, je crois qu'on n'a pas l'indication de l'étage. D'accord. Et après, quand on est là-haut ?
France Culture.
Formidable.
Le Book Club.
Vous allez bien ?
C'est Isha.
Salut, enchantée. Salut le chat.
Voilà. Entrez.
Dans la bibliothèque d'Hélène Cixous. Salut,
un peu rangé, mais superficiellement. Hein, parce que...
Oui, mon amour chéri.
Marie Richeux.
Elle va participer, sans doute. Mais bon.
Je vis avec rêve et avec livre, dit la grande écrivaine Hélène Cixous. En les désignant ainsi, comme deux entités palpables, elle ne ment pas, évidemment. Et les livres et les rêves, nous les sentons quand on entre dans son appartement parisien, perché dans les hauteurs. Beaucoup de ciel, donc, quelques bruits des habitants du dessus, la moquette assourdissant nos pas et ceux délicats des chats qui vivent ici. Dans les rayonnages et sur les murs, on trouve trace de sa riche vie. Le visage du grand ami Jacques Derrida, celui de la mère Ève qui apparaît dans tellement de ses textes, un tableau de Simon Antaille, un autre d'Alchinski et des dessins de Berada. Dans la bibliothèque, elle a aménagé un coin pour Osnabrück, la ville des origines, des mémoires et des fantômes. Il y a aussi un coin pour Shakespeare, un autre pour Kafka et un pour Lispector. Quelque chose dans la voix d'Hélène Cixous résiste à l'âge et ancre ce portrait de bibliothèque en une réalité tremblante. Ce n'est qu'une fois redescendus dans la rue que nous sommes comme sortis du songe. Et alors, sur la chaussée, des techniciens de cinéma s'affairait à fabriquer de la fausse pluie pour un tournage qui débuterait à la nuit tombée. Suivons Hélène Cixous dans sa bibliothèque.
Ah bah oui, il s'agit que de ça.
Oui. Alors je me suis dit, en fait, il y a plusieurs bibliothèques ici, mais il y en a une où on n'ira pas parce que c'est trop bordélique.
D'accord.
Mais là-haut, c'est un régiment de Joyce. Ce qui veut dire que j'y vais pas souvent. Voilà. Et là, il y a le monde de la Pléiade. Il n'y a pas toutes les Pléiades, mais il y en a beaucoup, bien sûr. Et puis là, il y a pas mal de philosophie moderne. C'est-à-dire que ce sera aussi bien Foucault, Deleuze, etc. Enfin bon, des trucs de ce genre. Et là, c'est plein de textes, soit de la psychanalyse, beaucoup, beaucoup, soit de poètes. Et en bas, alors, il y a le Larousse du 19e siècle, qui autrefois me retenait beaucoup, mais là je m'en sers assez peu, mais enfin il est là quand même.
Et autrefois ça vous retenait beaucoup, pourquoi ce
grand
Larousse ?
Non, ça m'intéressait beaucoup, maintenant moi je me dis que si c'est moins, c'est à cause d'Internet. Mm. Parce que je vais assez rapidement aussi chercher des indications, bon. Et du coup ça a diminué ma fréquence de consultation du Larousse. Mais ça il faut dire que c'est un pur plaisir, c'est aller au musée là, voilà.
Et pas... vous l'avez depuis quand, cette grande encyclopédie qui est...
J'ai acheté, je sais pas, il y a 30 ou 40 ans, un truc comme ça. Je sais plus, bon, mais...
Donc, voilà. On résume, on a Joyce là-haut.
On peut pas tout résumer, non. D'ailleurs, parce que là, par exemple, vous voyez, ce sont tous les livres d'art qui se sont accumulés. Et puis, alors, disons qu'ici, il y a quelques photos, quand même,
ouais.
Et qui se sont installées ici, et puis voilà, et elles sont finalement assez décisives. Ça m'intéresse moi-même de les noter.
Est-ce que vous voulez les décrire, pour celles que vous souhaitez décrire ? Parce qu'en effet, elles ont presque autant d'importance, elles couvrent presque les couvertures de livres, Hélène Cixous.
Oui.
Il faudrait les déplacer pour certaines, pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière.
C'est ce qu'on fait tout le temps.
Hein. Pourquoi est-ce qu'elles sont décisives et elles se sont installées là ?
C'est-à-dire que si elles sont restées, c'est qu'elles devaient avoir une légitimité quelconque. Hein. Mm. C'est pas calculé. Mm. C'est... voilà. Je dirais que celle que je trouve la plus charmante, mais qui est peu communicable, c'est celle-là.
Et celle qui est complètement à droite ?
C'est celle qui est à droite dans ce cadre. Ouais. Et là, il y a ma grand-mère, la dame.
Oui, avec le chapeau.
Ouais. Ouais.
Je peux bouger cette petite table ?
Oui, oui.
Sur roulette.
Et puis, en fait, elle est là aussi. Donc, vous allez voir, c'est une vie. Ça, c'est elle quand elle avait 90 ans.
Incroyable, cette photo.
Oui. Et ça, c'est elle quand elle était jeune femme. Mais ça, c'est ma mère. Quand elle avait 2-3 ans. Voilà. Et je trouve ça merveilleux.
Qu'est-ce que vous trouvez merveilleux ?
Ben, qu'elles soient là. Mmh. Voilà. Elles sont très présentes. Mmh. Ça, c'est mon petit-fils qui, maintenant... Et plus de votre côté, qui est historien. Ça, c'est Derrida et moi. Ah, tiens, voilà. Voilà, ici, il y a une jolie photo, parce qu'elle est rare, cette photo, parce qu'il y a... ça, c'est en 2000, ça, c'est Derrida, ça, c'est Shimon Antaï, et c'est rare, parce que lui, il ne sortait jamais. C'est-à-dire, avoir une photo avec Antaï, c'est pour ainsi dire...
Vous vous connaissez bien avec Shimon Antaï?
Ah oui, oui. Ouais. Il habitait tout près, d'ailleurs, mais enfin, il ne sortait pas, hein. Voilà. Mais là, pour un jour de l'an avec Derrida, il avait quand même réussi à sortir.
Voilà. Vous fréquentiez son atelier ? Vous alliez le voir ?
Oui, bien sûr. Ouais. On était tout proches. Il habite en haut du René Coty. Ensuite, il y a une petite rue qui s'appelle rue Deutsch de la Meurthe. Et là, il y a la maison rue Georges Braque de Antaï. Là, c'est une petite pièce. C'est de l'écriture de Clarice Lispector, que m'avait donnée une de ses amies. Voilà. Alors, c'est une bibliothèque qui est nécessaire, mais qui n'est pas avec moi tous les... Enfin, elle est toujours là, puisqu'elle fait partie de l'espace. Oui, oui. Mais c'est pas ma bibliothèque intérieure. Voilà.
On vous suit vers celle-ci, alors. Ouais. Voilà.
Alors... Isha, on va parler de la bibliothèque, d'accord, ma chérie ? Voilà, vas-y. Bon, alors là...
Que de lumière ?
Oui. J'ai fait énormément d'ordres, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais enfin, bon, on ne peut pas le maîtriser ici, le désordre. Et je m'y perds. Mais je sais physiquement à peu près où sont les ouvrages. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin tous les jours. Mmh. Voilà. Et j'ai essayé de regrouper. Ça, c'est un regroupement de Proust, mais en fait, il y a la correspondance de Proust qui n'est pas complète. Il me manque des volumes, mais il y en a qui sont introuvables. Alors ici, c'est un peu un pêle-mêle, mais c'est des livres que j'aime et dont j'ai beaucoup besoin. Alors il y a du Benjamin, il y a des proches en allemand, il doit y avoir aussi du Bachmann, mais je suis troublée parce qu'il y a du Bachmann ici, mais il y en a là aussi. Bon, enfin, il faut dire, c'est très très mélangé. Ça, c'est mon petit coin...
Rousseau,
Diderot, fin 18e siècle, que j'adore absolument. Et là, il y a certains textes de lecture critique et beaucoup de choses qui circulent en ce moment quand je suis en train de travailler. Donc c'est un peu bizarre. Par exemple, avoir Max et Moritz ici, que j'adore aussi. Et puis un pêle-mêle de lecture, mais très classique. Alors, Virgile, Homère, etc.
Quand vous dites que vous en avez besoin tous les jours, c'est-à-dire que la table qu'on voit là, ce serait peut-être une table de travail.
C'est ma table d'écriture.
Et vous faites quelques pas pour aller consulter des livres derrière vous.
Oui, tout le temps. Là, il y a pas mal de livres qui sont de fond, des dictionnaires étymologiques. Les dictionnaires, c'est très important, il y en a pas mal. Et j'en ai besoin tout le temps. J'ai pas assez de place, il devrait être plus haut, je devrais pouvoir... parce qu'il faut que je déplace des petits meubles pour attraper tel ou tel volume, ça c'est, je regrette, mais c'est comme ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. De l'anglais, de l'allemand, du latin, du grec et des choses comme ça. Ça, c'est Clarice Lispector. C'est à peu près complet en brésilien et en français. Ça, c'est mon petit coin d'Osnabrück. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je laisse encore des petites traces de la ville qui me sert de lieu de rêve depuis assez longtemps. Mais il peut y avoir autre chose. Par exemple, je dirais ces dernières 2-3 années, j'étais dans Hugo tout le temps. Donc il y en a partout en ce moment. Ça ne veut pas dire que ce sera pour toujours, mais quand même. Mmh. Puis je l'aime beaucoup, ce bonhomme. Donc voilà. Là, un mélange alors allemand, Kafka. Là, Kafka, vous ne le verrez pas en entier parce que j'ai tout Kafka en français dans plusieurs traductions, mais j'ai aussi tout Kafka en allemand, mais il est dans une autre pièce et on ne peut pas y avoir accès. Mais il y a à peu près 20 ou 25 volumes en allemand et c'est très mauvais comme édition. Mais bon, j'en ai besoin. Alors, donc, ça c'est sur deux étagères, ici. Voilà.
Vous avez vraiment des zones. C'est vraiment organisé par zone.
Oui, mais si je le faisais pas... Déjà, comme ça, je me perds. Et si je faisais pas un peu comme ça, ça serait pas possible. Alors là, pour moi, c'est vraiment le cœur des choses. Donc, surtout les romantiques allemands ici, autant que possible. Donc, aussi bien Goethe que Kleist, que Büchner, que j'ai sélectionné pour nous pour tout à l'heure. Et là, alors, il y a beaucoup de choses aussi, de traces, des volumes de manuscrits et autres qui sont destinés aux archives de la BN. Mais c'est indescriptible, ça. Ça, c'est un mélange de Stendhal, mais derrière, il y a aussi pas mal de textes fondamentaux, tous les textes mythiques et mythologiques, aussi bien les Bibles que les textes les plus anciens de la littérature, enfin, qui sont accumulés là. Et en haut, ben, c'est des livres de moi qui sont empilés, mais c'est vraiment le désordre le plus total. Bon, là, par exemple, c'est un volume de rêves, mais ça, c'est les miens, hein. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. C'est une accumulation comme ça. Bon, c'est... Non. Bon, alors, je sais pas, je vous ai pas tout dit, mais c'est pas possible. Ma petite étagère à ma droite, c'est des chéries, quoi. Alors, il y a Shakespeare, évidemment, qui occupe la place la plus accessible pour moi. Là, il y a un mélange de psychanalyse et peut-être aussi un petit peu de Virginia Woolf. Je sais que là, j'ai dû m'indiquer à moi-même Hugo Zola. Enfin, ça, c'est des auteurs français qui sont à ma portée.
Et il y a Derrida aussi.
Ah oui, mais Derrida, on n'a pas encore vu. Alors, ça, c'est là. Et là, il y a la totalité de ses œuvres. Ici, comme ça.
Ah oui, d'accord.
Bon, là, c'est un vrai trésor, c'est immense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ici, à la destination de la BN, qui sont des volumes dédicacés, etc. Donc ça, c'est l'ensemble d'Erida, avec plein de trucs.
Tout ça, c'est autour de vous. C'est à la fois le lieu de travail, mais qui n'est pas tout à fait le lieu d'écriture, Hélène Sixou, bah, et un lieu de
ici,
sommeil.
Ah oui, ça c'est notre lit. Ça sert aussi à lire.
Oui. Et vous pouvez dormir au milieu des livres ?
J'en ai toujours.
Ok.
Il faut que j'en ai là, partout. Voilà. Et là, ah oui, alors là, ça c'est mon grand-père, mais le pauvre, il est effacé et je le regrette beaucoup par la lumière, parce que c'est une photo d'époque, c'est le père de ma mère, qui était un soldat allemand, qui a été tué en 1916 comme soldat allemand, en Biélorussie, et dont la tombe est en Biélorussie. Voilà. Bon. Ça, je crois qu'on a vu à peu près. Il y a encore une étagère par là, alors on va y aller. En fait, j'ai pas assez de place, je suis embêtée, parce que c'est pour ça que je peux pas vous emmener partout, parce que je suis obligée d'empiler, d'avoir des pièces pleines de livres de tout genre. Et... Alors ici, il y a... c'est un volet un peu théâtre, ou livre se rapportant au théâtre, pour moi. Là, il y a le Joyce le plus urgent, le plus fréquent. Et puis, il y a théâtre. Donc là, vous voyez de l'Ischille, d'un peu de tout, quoi. Et puis, en bas, ça doit être un ensemble de poches de toutes les littératures. Et derrière vous, il y a un morceau de Rantaille.
Ah oui.
Un vrai.
Protégé.
Protégé, mais c'est aussi à cause de la lumière. Hein. Mais ça, c'est un vrai.
Waouh. Voilà. Vous avez toujours beaucoup lu ?
Oui. Oui, ça c'était mon univers quand j'étais petite. Bon, évidemment, on pourrait considérer aussi les murs comme une bibliothèque. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que les tableaux ou autres qui sont ici, ils me sont chers et ils font partie du travail.
Ils valent pour bibliothèque, pour livre presque.
En tout cas, c'est une espèce de livre sur mur, quoi. Ça, oui. Oui.
Je crois que vous alliez parler du dehors, parce que comme on voit beaucoup les immeubles, ça pourrait presque faire penser à des rayonnages de bibliothèque.
Mais oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
Parce que vous avez une vue très large sur beaucoup d'immeubles de Paris.
Ça, j'en ai besoin. Je me suis toujours dit, mais c'est un miracle et un hasard hein, si je suis ici, mais je me suis toujours dit que ou bien j'aurais pu, comme ça m'arrive bien sûr, vivre à terre, par terre, ou au contraire, il faut que je sois au ciel. Mais dans l'entre-deux, je ne peux même pas imaginer de le supporter. Enfin, c'est comme ça. Mais j'ai les deux, en fait.
on passe à vos choix de textes ? Ou sauf si vous voulez nous montrer d'autres endroits, mais...
C'est vraiment tellement, c'est trop tellement désordonné que...
On en a parlé. C'est la bibliothèque qu'on...
C'est les autres bibliothèques,
oui. Voilà. When I get home and sit in my little house, I try to feel something that I like. When I get bored of looking inside myself, I always open windows at night. There's a tornado swing and it's rocking me right to sleep. Thank you for recording. There's a tornado swing and it's rocking me right to sleep. It's getting me up, but thank you for recording. The city lights are fading the stars away, so I don't bother looking outside. Sometimes I cry when the words on display.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Hélène Cixous, Marie Richeux.
Je me suis posé 1000 questions parce que, en fait, j'ai appris très tardivement que, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre, que le jeu, c'était de sélectionner des fragments de très très courts, c'est ça ?
Oui, une minute ou deux.
Et alors là, c'est devenu quelque chose de difficile, parfois. Mais c'est intéressant, justement, d'avoir des grandes difficultés.
Qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question quand on vous a demandé, Hélène Cixous, de choisir 5 textes ?
Ben, j'ai été obligée de discuter avec moi, parce que c'est évident que 5 textes... C'est arbitraire, bon, mais il faut bien que ce soit... C'est un jeu, bon. Et bien sûr qu'à ce moment-là, on peut imaginer toute espèce de réponse. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les livres les plus importants ? Alors tout de suite, je ne sais pas si c'est pas ma fille qui m'a dit, mais t'as pas mis Shakespeare ? Mais non, pourquoi ? Parce que Shakespeare, on est dans Shakespeare. Bon, voilà. Mais c'est une évidence en même temps. Mais j'ai pas mis Montaigne, alors que pour moi, c'est du tous les jours. Voilà. Et alors je me suis dit, bon, il faut que j'aille vers ce que j'adore en secret, enfin de manière tout à fait justement subjective. Il n'y a aucune raison pour que tout le monde partage mon goût ou mon amour pour certains textes.
On y va ?
Voilà.
Alors ce serait quoi le premier, l'entrée en matière ?
Le premier, je ne sais pas du tout. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est comme ça, voilà, après coup, quand j'ai fini par me décider, c'est que tous ces textes, en fait, ils avaient quelque chose en commun. Et du coup, je me suis dit, d'abord, ce sont des textes du commencement et de la fin, c'est-à-dire de l'entrée dans l'existence et dans l'histoire et de la mort. Et tous, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fabrique là ? Ben, bon, donc c'est que c'est vrai.
Ils contiennent les deux.
Ah oui, tous. Et puis, ils sont absolument essentiels, c'est-à-dire que ce sont des textes qui... Ce sont des personnes... qui pour moi sont immortels, vraiment, et qui sont des modèles de réponse à la difficulté et au mystère d'être un être, une personne, dans l'histoire. Il y a toujours un fond très important. Alors bien sûr, je peux me dire que c'est moi, au fond, c'est bon, ce que j'ai pas pensé, hein, bien sûr. Mais j'ai plutôt pensé que que je ne pouvais pas échapper à cette nécessité absolue en ce moment, c'est-à-dire à cette époque au fond. En tout cas, moi, mais je pense que ça doit être tout le monde. Nous sommes des grains comme ça, des grains humains. Mais en fait, nous sommes prolongés, encerclés, abattus, relevés, etc. par des événements mondiaux tellement terribles et qui rassemblent l'histoire dans sa totalité. C'est des millénaires qui se rassemblent aujourd'hui dans l'horreur. Je me dis, ça, j'ai pas pu échapper à ça, c'est sûr.
Sans chercher à le faire, en fait.
Ah non, je n'ai pas du tout cherché à le faire. Ouais. Non. De toute façon, j'étais dans le texte. Mmh. Maintenant, l'autre chose, c'est que ce sont des textes, c'est-à-dire que c'est des textes dont l'écriture est un chef-d'œuvre. Ce sont des textes d'art, quoi.
Alors, puisque ce sont des textes à la fois du commencement et de la fin, est-ce qu'on a quand même une idée par quoi commencer, Hélène Tixou ?
On peut faire ça au hasard. Hein.
Allez.
Alors, ça peut, par exemple, on pourrait dire que c'est chronologique, mais ce n'est pas chronologique. Et on pourrait dire aussi que c'est bizarre, parce que si on le prend dans le temps, c'est... on pourrait dire qu'ils ne sont pas modernes, mais pour moi, ils sont ultra modernes. Mmh. Ils ne sont pas modernes parce que, voilà, par exemple, on va prendre ce texte sublime qui s'appelle Lens et qui est un texte de Büchner que j'adore. Et Büchner, on le lit très peu et puis il n'a pas beaucoup écrit, ou il n'a pas eu le temps, et il est mort tellement jeune. Mais c'est un génie absolu. Et donc, Lens, pour moi, c'est un miracle de littérature. Voilà.
Et vous vous souvenez de quand vous le découvrez ?
Bon, il y a très très longtemps. Je pense que tout ça, c'est... Alors, comment est-ce qu'on doit dire ça ? Quand j'avais 20 ans, ou bien il y a 60, ou bien il y a 60 ans. Voilà.
Un peu des deux, quoi.
Oui, oui, voilà.
Donc, vous lisez un extrait de Lens, de Georg Büchner.
Voilà.
On vous écoute.
Alors, c'est une traduction, je ne sais plus laquelle, et je m'excuse auprès des traducteurs, parce qu'il y en a de différentes espèces. Mais bon...
C'est une nouvelle éditée en 1839.
Oui. Enfin, justement, la date, c'est exactement ce que je dis. Quand il y a 60 ans ou il y a 100 ans, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le 20 janvier. Le 20 janvier, Lens partit dans la montagne. Sommet et haut plateau sous la neige, pente de pierres grises tombant vers les vallées, étendues vertes, rochers et sapins. Il faisait un froid humide, l'eau ruisselait des rochers, sautait sur le chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'air saturé d'eau. Des nuages gris passaient dans le ciel, mais tout était si opaque. Et puis le brouillard montait, accrochant aux buissons sa lourde humidité, si paresseux, si gauche. Il poursuivait sa route avec indifférence. Peu lui importait le chemin, tantôt montant, tantôt descendant. Il n'éprouvait pas de fatigue, mais seulement il lui était désagréable parfois de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Au début, il se sentait oppressé. Lorsque les pierres se mettaient à rouler, lorsque la forêt grise s'agitait à ses pieds et que le brouillard tantôt engloutissait toutes les formes, tantôt découvrait à demi ses membres gigantesques. Il se sentait le cœur serré et cherchait quelque chose comme des rêves perdus. Mais il ne trouvait rien. Tout lui paraissait si petit, si proche, si mouillé. Il aurait aimé mettre la terre derrière le poil. Il ne comprenait pas comment il lui fallait tant de temps pour dévaler une pente et atteindre un point éloigné. Il pensait devoir tout enjamber en quelques pas. Parfois seulement, lorsque la tourmente rejetait les nuages dans les vallées et que leur vapeur remontait le long de la forêt, lorsque dans les rochers des voix se faisaient entendre, tantôt pareilles au grondement du tonnerre au loin, tantôt déchaînant tout près leurs mugissements puissants, avec des accents tels qu'elles semblaient vouloir dans leur sauvage allégresse chanter la terre, lorsque les nuages s'approchaient en bondissant comme des chevaux effarouchés qui hennissent, et qu'alors le soleil surgissait, traversant la nuée pour tirer sur la neige son épée étincelante, si bien qu'une lumière aveuglante des sommets aux vallées tranchait l'espace et l'illuminait, ou bien lorsque la tempête écartait les nuages et y déchirait un lac d'un bleu limpide, que le vent se taisait, et que du fond des ravins et du faîte des sapins montait comme une berceuse ou un carillon, lorsqu'une légère lueur rouge se plissait sur le bleu profond, et que de petits nuages passaient sur des ailes d'argent, et que bien loin, sur tout le paysage, les sommets se détachaient, étincelants et fermes. Il sentait sa poitrine se déchirer. Il se tenait, haletant, le buste plié en avant, bouche bée, les yeux exorbités, Il lui semblait qu'il dut laisser pénétrer l'orage en lui et accueillir toute chose. Il s'étirait et s'étendait par-dessus la terre. Il s'enfonçait dans l'univers.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte-là? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Je ne veux pas faire une lecture comme ça. Je pense que c'est absolument génial. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ens. C'est-à-dire le fait que nous ayons du mal à... On se dit qu'on devrait... Comme ça serait mieux si on pouvait marcher sur la tête et puis passer par-dessus. Oui, voilà. Et puis, c'est évident que c'est un... L'ens est le monde, la terre, la nature. La terre est toute petite comme ça, comme une bille. Et... Ce qui est extraordinaire, c'est que au fond, on se dit, on devrait pas, parce qu'on est dedans, voilà. Mais on se dit peut-être, c'est quand même étrange cette vision. Et puis, est-ce qu'il n'est pas un peu fou, Lens, quand il est dans la montagne? Mais non, il y a une puissance justement d'ordonner le cosmos qui est incontestable. La folie est triomphante et elle est d'une beauté inouïe. C'est-à-dire qu'on est transporté, voilà, dans l'autre monde. Et ce monde est un corps. Et ce corps porte le monde en soi. Bon, enfin, le monde, si c'est le monde. Mais c'est d'un cosmique minutieux en même temps. Et puis, en passant, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a ce sans quoi je ne peux jamais être. Il y a les rêves, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que, après tout, peut-être que nous sommes dans un rêve? Ça, je n'en sais rien, peut-être. Mais même maintenant, peut-être que je suis en train d'être rêvée par vous ou par
ce micro poilu. Ou par les gens qui nous écoutent encore plus vertigineux.
Voilà.
Ça veut dire quoi quand vous dites, Hélène Cixous, que vous ne pouvez pas aller sans les rêves?
Parce que c'est comme ça. Je suis avec rêve. Je suis avec livre et avec rêve.
D'ailleurs, votre dernier livre commence par un rêve qui revient vous rendre visite après ne vous avoir pas rendu visite pendant quelque temps, c'est ça?
Ça doit être le rêve, oui, le monde rêve, oui, ça arrive aussi.
Et c'est très bizarre, non, quand on a quelques nuits sans rêver.
Je suis pas sûre qu'on ne rêve pas, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, on s'en souvient pas.
Oui, c'est qu'on les a perdus, justement, comme ce qu'il dit des rêves perdus.
On va vers un deuxième texte?
Ben oui, alors puisqu'on a parlé de ça, alors là, je passe à tout à fait autre chose et qui est pour moi, j'adore, mais c'est pas. Bon. C'est l'Énéide. Et il faut dire que j'en jouis plus profondément en me reportant au latin. Non pas que je lise le latin couramment, mais je peux le déchiffrer et évidemment en m'appuyant sur la traduction. Je peux revenir au latin et à ce moment-là. Avoir le bonheur de cette langue qui est poétiquement d'une force absolument unique. Alors, c'est pas seulement la métrique, etc., mais c'est la syntaxe. La syntaxe du latin, je suis triste qu'on l'ait perdue parce qu'elle a une telle force de frappe, une telle économie, et c'est comme une deuxième langue dans la langue, ou une première langue par-dessus la langue, tout le temps. Si bien que quand on lit en latin, on est transporté, quoi, par la force de la construction. C'est admirable.
Mais vous pouvez lire en latin? Vraiment en latin, sans la traduction vers le français?
Je ne peux le faire que si j'ai lu la traduction française d'abord, parce que sinon je vais me laisser...
Verser par la musique, quoi.
Oui, mais après je vais rater des choses, etc. Donc je suis modeste, je lis en bilingue, mais je peux retourner au latin et à ce moment-là jouir quand même justement de...
Qu'est-ce que vous avez choisi dans l'Énéide de Virgile?
J'ai choisi le livre 2 parce que j'ai beaucoup travaillé pour mon plaisir et aussi pour mon séminaire. Et parce que le livre 2, c'est notre histoire, c'est maintenant. C'est d'abord la construction, alors même si ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est la destruction de Troie, l'anéantissement tellement total, tellement anéantissant qu'il n'y a plus de traces de Troie, c'est-à-dire que voilà. Et ça existe, justement, la destruction totale d'un lieu de telle manière qu'on n'en trouve plus aucune trace. Bon, ça m'est arrivé aussi dans la vie. Et alors, du point de vue de l'écriture, En fait, c'est un anéantissement, il n'a pas lieu devant nous, sauf justement parce qu'il est rapporté, raconté, rejoué par Énée, qui est en train de le raconter bien loin de l'époque de l'anéantissement, etc. Voilà. Et donc, c'est un récit dans l'autre et un anéantissement dans l'autre, et une résurrection aussi, mais une résurrection des morts, si on peut dire. Mais c'est aussi, quand même, le plus beau texte du monde, moi je trouve, sur la destruction d'une civilisation, d'une population, d'un peuple qui disparaît complètement, qui est totalement anéanti, et puis de la mémoire. Voilà. Et ce n'est qu'un tissu de pilonnement, c'est l'Ukraine. Ça pourrait être évidemment une autre époque, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être Stalingrad ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Mais c'est l'Ukraine. Et alors le tour génial du poète, de celui qui raconte ça, c'est que cette destruction à laquelle nous assistons, pour commencer, elle se passe entièrement dans la tête d'Énée, c'est-à-dire ça se passe en rêve. Et donc elle est double, elle est en rêve et en réalité en même temps. C'était le temps où un premier repos commence pour les mortels souffrants. Et par un don des dieux s'insinue très agréablement dans mes rêves. Voici que devant mes yeux, il me semble qu'Hector, très triste, était présent près de moi et répandait des pleurs abondants, comme jadis, après avoir été traîné par un char, noir d'une sanglante poussière et traversé de courroies le long de ses pieds enflés. Malheur à moi, tel qu'il était jadis, combien différent du grand Hector, revenant vêtu des dépouilles d'Achille, ou après avoir lancé des feux phrygiens sur les poupes des Danaïens, mais portant la barbe hérissée, les cheveux collés par le sang, et les illustres blessures reçues en très grand nombre autour des murs de ses pères, je croyais, en pleurant moi-même, interpeller le premier, ce héros, et tirer de moi ces paroles affligées. Ô lumière de Dardanie, ô espoir le plus fiable des Troyens, quels si grands obstacles t'ont retenu? De quelle rive viens-tu, Hector, si attendu? En quel état, après les nombreuses funérailles des tiens, après les diverses peines des hommes et de la cité, te contemplons-nous, épuisés aussi? Quelle cause indigne a souillé tes traits sereins? Ou pourquoi aperçois-je ces blessures? Lui, rien. Et il ne s'attarde pas à mes demandes vaines, mais tirant gravement des gémissements du fond de sa poitrine, il dit « Hélas, fuis, fils d'une déesse, et arrache-toi à ces flammes. L'ennemi tient les murs. Du haut de son faîte se précipite Troie. » Assez a été donné à la patrie et à Priam. Si Pergame pouvait être défendue par un bras, c'est bien plus par le mien qu'elle l'aurait été. Alors là, il faut voir justement quelque chose qui est sublime. En fait, je ne sais pas où je suis. C'est-à-dire que Hector revient, mais différent de Hector, de l'autre Hector, qui rappelle l'autre Hector et celui-là. Et c'est toujours un Hector martyrisé, un Hector en sang, et en même temps un Hector éloquent, mais qui ne répond pas aux questions d'Énée qui dit mais qu'est-ce que tu as, mais où sont ces blessures, mais qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Enfin, c'est un Hector mort qui revient, mais qui revient plus vivant que jamais. Et dit le texte, en commençant un vers, il est nihil, et ça c'est lui, et lui rien qui est traduit, c'est très justement traduit, il est nihil. Alors là, un peu de latin, il est, c'est le pronom personnel il, enfin la troisième personne au masculin, mais c'est aussi un des trois pronoms personnels pour dire il en latin, et ce il est, c'est un il est supérieur, sublime, magnifique, et si bien que pour le traduire, nos traducteurs souvent parle du grand Hector ou de l'illustre, qui n'est pas dit dans le texte, mais dans le pronom personnel. Voilà.
Alors, et là, c'est plus juste.
Il est nihil.
Il est rien.
Il est rien. Alors après, évidemment, si on poursuit, on s'aperçoit, par exemple, que Hector, mort, mais quand même pas mort, dit à Énée, mais qu'est-ce que tu fais ici, fils de déesse, c'est-à-dire Énée, fils de Vénus, mais qu'est-ce que tu attends? Mais fuis fugue, fugue. Et tout le long du livre 2, il y a quelqu'un qui est en train de dire « Fuis, 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 fuis !» Et il n'y a pas que Hector, il y a Anchise qui dit à son fils, et une déesse qui parle, enfin, tout le monde lui dit « Mais fuis, mais fuis !» Et c'est d'une beauté, et évidemment, c'est la langue, le latin, porte ça à incandescence, c'est incroyable.
Où est-ce qu'on s'arrête dans notre prochaine étape?
Vous savez, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à essayer de convoquer quelques textes, je me suis dit, il n'y a que des hommes, comme d'habitude. Bon, alors c'est imposé à moi, Akhmatova, à cause justement de notre époque. C'est maintenant, quoi, vraiment. Et Akhmatova, qui est une immense poétesse du XXe siècle, qui, comme on le sait, elle est une des survivantes, parce que la plupart des poètes et autres ont été évidemment éliminés par le régime stalinien. Et il se trouve qu'elle a survécu quand même jusque dans les années 60, ce qui est quand même inouï. Surtout qu'elle est partie en petits morceaux, si on peut dire, puisque son premier mari a été fusillé très tôt, au moment de la Révolution russe. Puis son fils a été déporté. Et puis autour d'elle, tous les gens qu'elle aimait, au fur et à mesure, ont été anéantis par l'époque, ce qu'elle appelle justement... Alors là, je vais lire la préface. Je l'ai pris dans le Requiem, une sorte de célébration, donc, de Requiem, qui se situe entièrement devant la prison où étaient gardés, avant d'être exécutés, tous les martyrs de cette époque-là. Bon.
Et où elle vient,
elle fait la queue avec
année
tout le monde.
Année après année. Voilà.
Et donc là, c'est ce que j'ai pris pour commencer. Et c'est monté par elle, après coup, parce que c'est sur 20 ans, je crois qu'elle écrit d'ailleurs sur Requiem, avec des dates qui sont intéressantes, toujours. C'est un acte, à ce moment-là, un acte de recréation. Par exemple, dans la construction qu'elle aura faite... Le premier texte qui nous est donné à lire, et qui est un bref poème, un quatrain, c'est de 1961. Alors qu'à l'intérieur, on va trouver des textes de... beaucoup plus... Mmh. Oui. Voilà. Et alors, il y a beaucoup de niettes. Alors, il y a beaucoup de poèmes qui sont des non-niettes. Non.
Là aussi, vous avez une édition bilingue, Hélène Sixou.
J'ai une édition bilingue. Ouais. Oui, mais là, j'ai beaucoup plus de mal, alors, je dois dire. Bon. Non, ce n'est pas sous un ciel étranger, à l'abri des ailes étrangères que j'étais. Mais au milieu de mon peuple, là où, pour son malheur, mon peuple était. Alors, en guise de préface, et ça date de 1957, elle l'écrit à Leningrad. Dans les années terribles de la Yezhovchina, c'est-à-dire l'époque où Yezhov était le maître à tuer de l'URSS, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Un jour, quelqu'un a cru m'y reconnaître. Alors, une femme aux lèvres bleuâtres, qui était derrière moi, et à qui mon nom ne disait rien, sortit de cette torpeur qui nous était coutumière et me demanda à l'oreille. Là-bas, on ne parlait qu'en chuchotant. « Et cela, pourriez-vous le décrire ?» Et je répondis « Oui, je le peux. » Alors une espèce de sourire glissa sur ce qui avait été jadis son visage. Alors j'ai pris autre chose.
C'est vraiment une femme qui lui demande expressément de dire ce qu'elle vise.
Oui, si elle pouvait. Si elle pourrait, puisqu'elle ne pouvait pas. La dame ne pouvait pas, mais elle a dit oui. Et ça, on pourrait dire quelque chose. Oui. Voilà. C'est admirable. Ça, c'est du côté Requiem, alors. Le jour des morts de nouveau s'approche. Je vous sens et vois, et j'entends près de moi. Et celle qu'à grand-peine on traîna jusqu'au bout, et celle qui ne foule plus la terre natale, et celle qui, secouant son visage si beau, s'écria « J'arrive dans ce lieu comme à la maison. Je voudrais les appeler toutes par leur nom, mais on a enlevé la liste et où me renseigner ?» Pour elle, j'ai tissé un large drap mortuaire avec leurs propres paroles de misère. À elle, je penserai toujours et partout, et dans le nouveau malheur, je m'en souviendrai. Et si l'on bâillonne ma bouche fatiguée, par laquelle crie un peuple de 100 millions d'âmes, que de même, à leur tour, elles pensent à moi, à la veille du jour où l'on m'évoquera.
Dans ce passage que vous venez de lire, elle évoque le poème ou le lieu de l'écrit à la fois comme celui où elle peut penser aux autres,
oui,
dire la parole des autres.
Et penser pour les autres. Oui.
Penser la parole.
Oui.
Penser pour les autres.
Oui.
Mais elle pense aussi à la possibilité, si jamais elle était bâillonnée, qu'on pense à elle.
Ah oui, tout à fait. Elle le dit d'ailleurs très souvent, mais ce qu'elle dit aussi, c'est que ce qu'elle appelle un large drap mortuaire, c'est très beau, elle est tissée avec leurs paroles à elle, leurs paroles de misère. Ce qui est une position de justesse et d'amour.
Vers un quatrième texte. Donc on était avec Büchner, puis avec l'Énéide de Virgile, puis Armatova.
Alors ça, c'est Kafka, le procès. Et l'ouverture, avec comme titre de la première partie, c'est Arrestation. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin, sans qu'il ait rien fait de mal, il fut arrêté. Ce jour-là, la cuisinière de Madame Groubard, sa logeuse, qui tous les jours vers 8 heures du matin lui montait le petit déjeuner, ne vint pas. Ça n'était encore jamais arrivé. K attendit encore un moment, aperçut de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité tout à fait inhabituelle chez elle, puis, tout à la fois intrigué et affamé, il sonna. Aussitôt, un homme qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement entra. Il était mince et malgré tout solidement bâti. Il portait un habit noir bien ajusté, muni, comme les costumes de voyage, d'un ensemble de rabats, poches, boucles, boutons, ainsi que d'une ceinture. Un vêtement qui, par là même, sans que l'on puisse bien voir à quoi tout cela pouvait servir, semblait particulièrement pratique. « Et qui êtes-vous ?» demanda K, en se relevant à moitié dans son lit. Mais l'homme passa outre à la question, comme si l'on devait trouver normal qu'il fasse ainsi irruption, et dit simplement de son côté « Vous avez sonné ?»« Anna doit m'apporter le déjeuner, » dit K, essayant d'abord en silence, par un effort d'attention et de réflexion, d'établir qui pouvait bien être cet homme. Celui-ci, cependant, ne s'exposa pas longtemps à son regard. Il se tourna vers la porte, qu'il ouvrit un peu pour dire à quelqu'un, qui manifestement se trouvait juste derrière, « Il veut qu'Anna lui apporte le déjeuner. » Un petit rire suivit ces mots dans la pièce d'à côté. On ne pouvait pas être sûr, à l'oreille, que plusieurs personnes ne prenaient pas part à ce rire. Bien que l'inconnu ne puisse rien en conclure, qu'il n'eût déjà su, il dit alors malgré tout à K, sur le ton d'un communiqué, « C'est impossible. » Voilà qui serait nouveau, dit K, sautant du lit et enfilant promptement son pantalon. Je voudrais quand même voir qui sont ces gens dans la pièce d'à côté et comment Madame Groubard va répondre devant moi de ce dérangement. Il songea certes tout aussitôt qu'il n'aurait pas dû dire cela à voix haute et que ce faisant, il reconnaissait en quelque sorte à l'inconnu un droit de surveillance sur sa personne. Mais sur le moment, ça ne lui sembla pas avoir d'importance. Quoi qu'il en soit, l'inconnu comprit la chose en ce sens, car il dit « Ne préférez-vous pas rester ici ? Je ne veux ni rester ici, ni que vous m'adressiez la parole tant que vous ne vous serez pas présenté. » « Vous n'avez pas de mauvaise intention, » dit l'inconnu, en ouvrant alors la porte de son propre chef. Dans la pièce d'à côté, où K entra plus lentement qu'il ne le voulait, les choses, à première vue, avaient l'air rigoureusement identiques à ce qu'elles étaient la veille au soir. C'était le grand salon de Madame Groubard.
Un extrait du procès de Kafka.
Les premières lignes.
Tout à l'heure, quand on se promenait dans vos bibliothèques, Hélène Sixou, il y avait toujours des moments Kafka, des zones Kafka. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là ?
Il se trouve que cette année, j'y ai beaucoup travaillé par hasard et que j'ai découvert le procès que à l'égard de qui j'ai toujours eu une sorte de réticence. Et je sais pourquoi, c'est qu'en fait, ça m'est insupportable. Mmh. Le procès m'angoisse tellement que que je le repousse, que 100 fois dans mon existence, je suis rentrée là, puis je suis ressortie, etc. Enfin bon, il y a des livres que j'ai du mal à lire parce qu'ils me font trop mal. Et il me faut parfois 20 ans, ou peut-être que ça n'arrive jamais que j'arrive à les supporter. Et puis, évidemment, je me suis dit que l'art suprême... D'abord, quand on a lu le procès, on se rend compte que ça, c'est le premier chapitre, la première partie, et la dernière partie est jumelle, exactement. Et on se rend compte que ce qui arrive, c'est que ça n'arrive pas. C'est entièrement sur « il arrive quelque chose qui n'est jamais arrivé et qui n'arrive pas, et qui n'arrive pas à arriver ». Et ça, c'est toute la modulation temporelle et effrayante du texte. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre, c'est l'innocence. C'est justement sans qu'il ait rien fait de mal. Or, je crois que j'y étais poussée, ou que c'est ce texte-là qui m'a poussée à travailler de manière très, très, très abondante et avec les gens avec qui je travaille, sur l'innocent par excellence, si je peux dire, c'est-à-dire Dreyfus, par hasard, enfin donc, et je suis revenue sur les annales de Dreyfus et j'ai lu et relu les lettres de Dreyfus, etc. Parce que c'est évidemment l'innocent absolu. Et c'est celui qui souffre d'innocence, dont l'innocence est torturée. Bon. Et je me suis dit, c'est quand même curieux que voilà une époque, c'est la même. Ça se passe au même moment. Dreyfus et le procès, c'est...
Voilà. Voilà une époque qui quoi ? Qui se pose la question de l'innocence bafouée ?
Non, je pense que c'est une époque où il y a procès, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et procès toujours... Enfin, c'est ce qu'on a vu tout récemment. Quand on a vu le moment où Trump a failli dévorer Zelensky tout cru, c'était la même scène en condensé.
Qu'est-ce qui fait que vous parvenez à entrer soudain dans un texte dont vous êtes plusieurs fois sorti, Hélène Cixous ? Vous savez, vous comprenez, vous savez pourquoi d'un coup c'est possible de rentrer dans le procès de Kafka ?
Je pense que là j'y ai été... amené justement par la conjonction de je ne sais combien de moments de torture et de... Parce que j'ai pu lire des textes de Kafka qui sont atroces, comme la colonie pénitentiaire, ou bien... mais ils sont plus courts. Alors là, je peux tenir 20 ou 30 pages, mais au bout d'un certain temps, je ne supporte plus du tout. Et voilà. Ça m'est arrivé plus d'une fois en littérature, hein. Et un autre exemple, quand j'avais lu Le souffle de Thomas Bernhard, impossible, impossible, impossible de lire, mais impossible, je m'y suis prise à je ne sais pas combien de fois, puis j'ai laissé tomber, et là je comprenais tout à fait, parce que c'est une histoire de tuberculose, je ne peux pas. Bon, voilà. Et donc je reconnais ça chez moi, c'est un symptôme, et bien sûr que c'est aussi un hommage, mais un hommage, c'est une façon de dire que ce livre est plus fort que tout, et qu'il me persécute, je ne peux pas. Mais c'est aussi que je suis lectrice de cette manière. C'est-à-dire que la littérature, pour moi, c'est le rêve réalisé. C'est le cauchemar. En cauchemar, il nous arrive ça.
C'est notre dernier choix, je crois. C'est votre dernier choix ?
Ah ben non, parce qu'on avait une cinquième et je peux m'en passer. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit aller vers Stendhal.
Ah oui.
Dernière étape.
Alors, évidemment, là, c'est plutôt parce que c'est à mourir de rire. Donc, il vaut mieux se consoler avec Stendhal. Le génie absolu qui, par écriture, par des coups d'écriture, me transporte de joie, d'émerveillement, de ravissement. Bon, je l'adore. Je ne dis pas ça, par exemple, je ne me dis pas ça de Kafka. Ou... Non, mais lui, vraiment, il est délicieux, quoi. C'est une merveille. Et c'est aussi parce qu'il se prend lui-même comme personnage. Il ne se prend pas au sérieux. Au contraire, il se dénonce tout le temps, et sur le mode le plus... Il ne dit pas « moi, je suis innocent ». Non.
Il dit quoi ?
Il dit du très, très grand avec du tout petit, petit, tout le temps. Comme il dit, justement, qu'il n'a jamais pu se séparer de son adoration pour Saint-Simon et les épinards. Ça, c'est la signature de Stendhal. Vraiment. Je pense que j'ai aussi beaucoup d'amour pour lui parce qu'il est d'une modestie hallucinante. C'est comme quelqu'un qui, comme justement quand il écrit au début de la vie de Henri Brulard, et qu'il est entièrement dans un univers de dates et de pronostics de tout genre, il se présente comme quelqu'un qui est parié, le temps le parie, dans les siècles. Soit il aura survécu, il sera un grand écrivain, soit, ben non, pas du tout, non, c'est raté, quoi. Et ça, c'est sa modestie réelle, parce qu'en réalité, il le vivait. Parce qu'en réalité, il n'était pas reconnu et pas lu. Et qu'il écrivait comme ça, en pariant sur...
Le futur lecteur.
S'il existe.
S'il existe. Mmh. Mmh. Vous lisez un extrait de Vie de Henri Brulard ?
Je tombais avec Napoléon en avril 1814. Je vins en Italie vivre comme dans la rue d'Angervilliers. En 1821, je quittais Milan. Le désespoir dans l'âme à cause de Mathilde et songeant beaucoup à me brûler la cervelle. D'abord, tout m'ennuya à Paris. Plus tard, j'écrivis pour me distraire. Mathilde mourut, donc inutile de retourner à Milan. J'étais devenu parfaitement heureux, c'est trop dire, mais enfin fort passablement heureux, en 1830, quand j'écrivais Le Rouge et le Noir. Je fus ravi par les journées de juillet, je vis les balles sous les colonnes du Théâtre Français, fort peu de danger de ma part. Je n'oublierai jamais ce beau soleil et la première vue du drapeau tricolore, le 29 ou le 30, vers 8 heures, après avoir couché chez le commandant Pinto, dont la nièce avait peur. Le 25 septembre, je fus nommé consul à Trieste par M. Mollet, que je n'avais jamais vu. De Trieste, je suis venu en 1831 à Civita Vecchia et Rome, où je suis encore, et où je m'ennuie, faute de pouvoir faire échange d'idées. J'ai besoin de temps en temps de converser le soir avec des gens d'esprit, faute de quoi je me sens comme asphyxiée. Alors, voilà les grandes divisions de mon compte. Né en 1783, dragon en 1800, étudiant de 1803 à 1806. En 1806, adjoint au commissaire des guerres, intendant à Brunswick. En 1809, relevant les blessés à Essling ou à Wagram. Remplissant des missions le long du Danube, sur ses rives couvertes de neige, à Linz et Passau. Amoureux de Madame la Comtesse Petit, pour la revoir, demandant à aller en Espagne. Le 3 août 1810, nommé par elle à peu près auditeur au Conseil d'État. Cette vie de haute faveur et de dépenses me conduit à Moscou, me fait intendant à Sagan, en Silésie, et enfin tombé en avril 1815. Qui le croirait ? Quant à moi, personnellement, la chute me fit plaisir. Après la chute, étudiant, écrivain, fou d'amour, faisant imprimer l'histoire de la peinture en Italie en 1817, mon père, devenu ultra, se ruine et meurt en 1819, je crois. Je reviens à Paris en juin 1821. Je suis au désespoir à cause de Mathilde, elle meurt. Je l'aimais mieux morte qu'infidèle. J'écris, je me console, je suis heureux. En 1830, au mois de septembre, je rentre dans l'ornière administrative où je suis encore, regrettant la vie d'écrivain au troisième étage de l'hôtel de Valais, rue de Richelieu, numéro 71. J'étais homme d'esprit depuis l'hiver de 1826. Auparavant, je me trisais par paresse.
Je crois que moi, en tout cas, qui n'ai pas lu ce texte, Hélène Cixous, ce qui me fait rire, c'est sa rapidité.
Parce qu'il est toujours à cheval. C'est le plus rapide des écrivains. Et c'est aussi un très grand spécialiste de la phrase courte. C'est l'anti-Proust, quoi. Et ça fait partie aussi de ce qui fait mourir de rire. Parce que c'est vrai qu'au voilà, au galop, il traverse tout. La politique, la littérature, l'histoire, le futur. Parce que ici, si on continuait, on le verrait. Il passe tout d'un coup, il se dit, voyons, bon, alors, en 1932, si par hasard on me lit, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah, ou alors, bon, je ne l'ai pas ici, mais c'est le moment où il se dit, bon, finalement, je ne sais pas quelle aurait été ma valeur. Et si je pouvais rencontrer Montesquieu, je lui dirais, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Alors, il me dirait peut-être, oh, ben, vous savez, vous auriez pu vous abstenir quand même. Enfin, s'il me dit ça, de toute façon, je l'accepte. Et s'il me dit c'est bien, continuez, ben. Et il vit comme ça sur plusieurs siècles, toujours, en arrière et en avant.
Qu'est-ce qui est drôle, d'après vous, dans le fait que j'ai ri un moment particulier, moi ?
Ah non, il y en a partout.
Voilà. Mais c'est comme si j'avais l'impression que ça rendait les choses... Oui, après la chute, étudiant, écrivain, fou d'amour.
Il résume, et il résume... C'est atomique, vraiment.
Mais ça rend le rapport à la vie...
Mais il écrit toujours comme ça, hein ?
Vif et... Mais un peu dérisoire aussi, non ?
Non, pas du... Enfin, là, c'est... Alors, le dérisoire, c'est pas dérisoire. Là, c'est justement sa façon de se déclarer modeste et de l'effectuer vraiment. Parce qu'il dit, par exemple, que autour de lui, il voit les écrivains qu'on célèbre et qui sont nuls. Bon, mais il le dit et il les nomme. Et il peut faire la peau de Chateaubriand, de Lamartine, etc. Mais en passant comme ça, parce que de toute façon, il s'en fiche complètement. Mais lui, il ne sait pas. Voilà. Et il se lit, il se surveille, il se dit le problème, c'est que j'utilise beaucoup de je et de moi. Alors, évidemment, je pourrais écrire autrement. Par exemple, si au lieu de dire je et moi, je disais il et il. Mais j'arrive pas, parce qu'il s'agit de moi quand même. Bon. C'est un génie.
On a fait le tour. Enfin, en tout cas, on a été aux 5 étapes.
Oh, oui, on a monté quelques
On a monté quelques marches.
Quelques marches, oui.
Merci beaucoup, Hélène Cixous, pour ce partage. Merci.
Enfin, c'est eux, hein. Eux et elles.
Mais c'est vous qui les avez choisis.
Oui, mais ça, c'est... Oui, ça fait partie du bonheur que nous donne la littérature, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même dans le malheur.
D'être choisi ?
De pouvoir lire. Et qu'ils aient écrit.
On tourne une petite minute sans parole pour le montage. Tout à l'heure que le soleil s'était couché, se couchait à 19h. C'était vraiment très étrange, c'était presque comme dans un rêve. Ça c'est à qui ? Peut-être c'est parce que je suis fatiguée. C'était presque comme dans un rêve. Ouais.
Mais c'était comme dans un rêve.
Ouais. À bientôt Hélène. À la prise de son aujourd'hui, c'était Michael Simon. Au mixage, François Saint-Jour. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez réécouter l'émission sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi là que vous trouverez toutes les références des textes évoqués par Hélène Cixous, avec notamment le nom des traducteurs et traductrices et celui des maisons d'édition.